Chapitre 34. Nicolas était introuvable. La barrière à l'extrémité de la passerelle menant à sa péniche était fermée, les lumières toutes éteintes. Charcot ne comprenait pas pourquoi il avait coupé son téléphone. Quelle mouche l'avait piqué pour qu'il ne donne plus signe de vie, même à ses amis. Franck quitta le port Van Gogh avec amertume. Il espérait juste que Nicolas n'ait pas fait de bêtises. Alors qu'il longeait le quai Robinson, il reçut un coup de fil.
« Commandant Charcot, c'est l'abbé François. »«
Mon père ?»«
Je suis désolé de vous déranger, mais je voulais vous informer que nous avons découvert David sans vie, hier matin. »
Franck se figea au milieu du trottoir. « Que s'est-il passé ?»«
L'autopsie a été pratiquée tard dans la soirée, mais le policier venu constater le décès m'a gentiment tenu au courant. » Le légiste a conclu à un arrêt cardiaque lié à la trop grande faiblesse de son organisme. Il est probable que David soit mort dans son sommeil, sans souffrance.
Charcot était sous le choc. L'homme squelette avait emporté tous ses secrets dans sa tombe. Jamais il n'aurait accès au contenu des lettres. Jamais il ne connaîtrait la nature exacte de sa relation avec Doty. Merci de m'avoir averti.
C'est normal. Une dernière chose. Le rapport fait également mention d'ecchymose et d'une côte fêlée résultant d'un coup reçu à la poitrine. Le policier m'a interrogé à ce sujet. J'ai signalé que David avait une propension à se faire mal à cause des diables, mais nous n'avons pas évoqué sa fuite dans les bois il y a quelques jours, ni votre rencontre.
C'est une sage décision, mon père. Après l'avoir salué, Franck raccrocha. Quelle poisse! Il envoya dans la foulée un bref SMS à Lucie pour lui transmettre la mauvaise nouvelle et poursuivit sa route. Il mit directement le cap sur le 36, où Géco lui tomba dessus à peine la porte franchie, sur les nerfs. Il savait déjà pour le référer.
« Ça veut dire quoi, ce merdier? Que la cérémonie de vendredi est annulée ?»
Charcot n'aimait pas qu'on l'accueille en aboyant, ni surtout la grossièreté de ce type qui ne pensait qu'à sa fichue cérémonie. Il essaya néanmoins de garder son calme. « Je n'en sais rien. Mais qui t'a informé si vite? Je comptais le faire moi-même.
J'ai mes contacts, qu'est-ce que tu t'imagines? Le Premier ministre ne veut pas que ce qui se passe avec Speak vire un de ses dérapages autour de la fin de vie, qui plus est en plein lancement de la campagne présidentielle. Ça embarrasserait la majorité. Alors, motus sur toute cette histoire. On ne laisse rien filtrer. Et bordel, reprends le contrôle sur Bélanger. » Il est sous ta responsabilité, Charcot.
Peut-être, mais il est en congé, et c'est son droit. Géco marqua son exaspération.
Joue pas au con, d'accord? Raisonne-le, c'est tout.
Franck se contenta de hocher la tête, mais intérieurement, il fulminait. C'était tout ce qui les intéressait, eux, les enjeux politiques. Peu importaient les vies humaines, les souffrances morales. Pour ces abrutis, Audra était déjà morte, mille fois morte, et il fallait juste régler le problème. La cérémonie devait permettre de tourner la page. Bande d'hypocrites. Dès que son supérieur eut fini son speech, Charcot s'enferma dans son bureau. Il se connecta au site Gallica et téléchargea la Divine Comédie. Ouvrir le fichier lui procura une étrange sensation. Il se rappela ces assassins qui s'étaient inspirés des écrits de Dante pour commettre leurs crimes, une enquête ancienne qui les avait tous marqués au fer rouge. Et aujourd'hui, l'ouvrage refaisait surface, dans un contexte non moins sordide. À croire que l'enfer n'était jamais bien loin de lui et de son équipe. Il devait se concentrer sur le livre, et plus précisément sur la première partie, divisée en 34 chants. Il s'agissait de l'enfer. Dante le présentait comme une succession de 9 cercles de plus en plus petits, peuplés de défunts condamnés à y souffrir pour l'éternité à cause de leurs péchés. Et il s'y aventurait accompagné d'un guide, Virgile, descendant au plus profond de ce lieu abominable. Un périple ponctué de nombreuses rencontres, Achille, Cléopâtre, Pluton, Épicure, Attila. Charcot entra, les éboulements des rochers font un cercle dans la zone de recherche. Le logiciel dénicha instantanément une occurrence. Charcot cliqua et tomba mot pour mot sur le passage que Doty avait noté dans le fichier Oignon. il ne s'était pas trompé. Ayant gagné le bord d'une haute falaise où les éboulements des rochers font un cercle, nous fûmes au-dessus d'un pays plus maudit. Il tourna la molette de sa souris. Le champ 11, selon les informations délivrées par une recherche internet, ce dernier était celui où Dante exposait pour la première fois la topographie détaillée de l'enfer avant d'attaquer les trois derniers cercles. Il le décrivait comme un lieu d'abomination et de puanteur habité par les âmes condamnées. Charcot imprima la totalité de ce champ, puis, stylo en main, s'appliqua à le lire. Mais il n'y avait rien à souligner, simplement parce qu'il ignorait ce qu'il cherchait. Comment reconstituer avec ça une adresse du Darknet? Quel système de codage Doty avait-elle utilisé pour brouiller les pistes? Ça pourrait être n'importe quoi. Sa quête était vaine, il n'y arriverait pas. Il referma le fichier en rageant, puis marqua un arrêt en empilant les feuilles fraîchement imprimées. Une idée venait de lui traverser l'esprit, un truc qui méritait d'être creusé. Il sortit en coup de vent pour rejoindre l'open space où Pascal tapait activement sur son clavier les rapports en retard. Dis-moi, lors de la perquise à Vanves, est-ce que t'as noté la présence quelque part de la Divine Comédie de Dante? Pascal secoua la tête. Ça me dit rien, non?
Moi non plus. Pas impossible qu'un exemplaire traîne dans son loft du 11e. Je me souviens d'une belle bibliothèque. Je prends la clé d'entrée au scellé et je file. Si on me demande, je suis là-bas.
Une demi-heure plus tard, il pénétrait chez Emma. Il ne prêta aucune attention à la forêt de sculptures anatomiques et se dirigea droit vers l'imposante bibliothèque. Il parcourut les niches une à une, avec cette excitation qui accompagnait souvent l'impression d'avancer sur la bonne voie. Dans le mille, le livre était bien là, calé entre un livre sur Delacroix et un autre sur Goya. Franck s'en empara avec délicatesse. Il s'agissait d'une édition ancienne, usée d'avoir été trop feuilletée. Il se rendit directement au champ 11, repéra le passage qui l'intéressait, et distingua aussitôt des points à peine visibles faits au stylo bille sous certaines lettres, et ce, sur plusieurs pages d'affilée. Bingo ! Franck ouvrit son carnet et méticuleusement nota chacun des caractères marqués par les points. Il obtint alors une suite incompréhensible de lettres. Exactement comme une adresse du Darknet. Il en était certain. Il tenait enfin la porte d'accès. Celle qui allait le mener dans les souterrains nauséabonds du web interdit.